Ça fait plaisir de devoir le remonter des fois. Alors, je vais commencer un peu comme Paul, mais si je devais donner un titre à la prédication, ce serait reconstruire. Et ce qu'on va voir ensemble, alors on va. J'ai beaucoup de pages, c'est pour ça que je me suis permis de couper assez tôt les exhortations, mais on va essayer de survoler un peu les deux livres d'Esdras et de Néhémie. C'est des livres qu'on ne regarde pas beaucoup. Qu'on connaît pas beaucoup, et pourtant il y a plein de choses intéressantes pour nous à apprendre. Alors ces deux livres-là, ils se rapportent à la même période en fait, c'est-à-dire celle où le peuple était en exil à Babylone et où il commence à revenir. Et si vous lisez ces deux livres-là dans la Bible, ils sont avant Job, Psaume, Proverbe, tout ça. Ils sont juste avant Esther, et il faut les lire avec deux prophètes qui sont tout au fond de l'Ancien Testament, qui s'appellent Agée et Zacharie. Parce qu'en fait, les deux font des références l'un à l'autre. Et si vous lisez bien le Néhémie et Esdras avant, vous comprenez quand même mieux comment ça se passe au temps d'Agée et de Zacharie. Donc il y a ces quatre livres-là. Nous, on va juste parcourir rapidement Esdras et Néhémie et juste faire le zoom sur certains points que j'ai trouvé intéressants. Et donc, là où ils en sont, quand on arrive au livre d'Esdras, c'est que les Juifs commencent à reconstruire, en fait. Donc il y a une partie des Juifs qui sont revenus de Babylone, suite à l'édit de Cyrus, le roi de Perse. Et ils sont revenus de Babylone, ils sont revenus s'installer. Et au bout d'un moment, ils se disent, mais il faut qu'on reconstruise le temple. Et le temple, c'était important. Et avec Esdras va revenir encore toute une partie de la population, avec Néhémie aussi. Et donc il y a plusieurs retours comme ça. Hein. J'ai plus les années en tête, mais c'est vrai que il y a une longue période, hein, si je me trompe pas, il n'y a pas 80 ans, entre le moment où Jérusalem est laissée complètement détruite et où le peuple peut retourner dans Jérusalem à partir de Babylone. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bah, ils trouvent une ville qui est en ruine. Probablement qu'il y a juste quelques personnes par-ci par-là, qu'il y a régulièrement des. On imagine un peu, hein, après, c'est pas écrit tel quel dans la Bible, mais qu'il y a des bandes, des brigands qui circulent un peu partout et qui profitent de ce qui est plus rien d'organisé pour attaquer, pour piller. Et du coup, ça fait une atmosphère pas très sympathique. Dans Néhémie, alors vous pouvez peut-être prendre Esdras, et puis quand il y a des choses qui vont sortir d'Esdras-Néhémie, je vous les lirai. Je vous ai dit. On les lit tellement qu'on ne les retrouve pas. Donc le contexte, il est donné par Esdras chapitre 1 et Néhémie chapitre 1 aussi. Un tout petit livre après Roi et Chronique. Donc Esdras, les premiers versets. La première année de Cyrus, roi de Perse. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem et en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Et donc on voit dans les versets d'après, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et bon, on va pas tout lire, sinon on pourrait lire les 10 chapitres d'Esdras et les 13 de Néhémie. Mais voilà, le contexte est celui-là. Et bien avant, alors là, c'est intéressant parce qu'on dit dans la bouche de Jérémie, mais la prophétie, nous, on l'a écrite dans le livre d'Ésaïe. Et dans Ésaïe 45, verset 13, donc ça, c'est 100 ans avant, hein, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. En fait, c'est l'un des points qui fait que les gens se disent, mais c'est pas possible, c'est pas Ésaïe qui a écrit ces chapitres-là. Tellement, voilà, il nomme quelqu'un de précis, il dit, voilà, c'est lui qui va faire revenir mon peuple, il n'y aura pas de rançon, il n'y aura pas de présent. Et c'est bluffant, Mais voilà, moi je trouve que ça pose pas de problème de se dire que Dieu il avait quelque chose de très précis et qu'il a été capable de donner le nom de la personne 100 ans avant. Après voilà, il y a beaucoup d'analyses des textes pour dire est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Peu importe, c'était écrit bien avant, quoi qu'il arrive. Donc Cyrus fait rentrer tout le monde et dans Néhémie, on a quelque chose aussi qui nous explique un peu la situation. Néhémie chapitre 1 verset 3. En fait, je peux commencer avant. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et après, on a une prière de Néhémie. Voilà, le contexte de Jérusalem, c'est ça. Il n'y a plus rien. On imagine de toute façon, moi, ce que j'avais en tête, après, on ne sait pas à quel point c'était comme ça à l'époque, mais on voit l'armée de Babylone, en fait, qui détruit les murailles, qui détruit les villes, qui met le feu partout. Et pour rester à peu près dans le même coin, hein, quand on voit des villes de Syrie, où il reste plus rien, tout est rasé. Et les gens, ils sont quelques-uns errés par-ci par-là, essayer de trouver de quoi survivre. Je vois les images aussi quand on voit les photos d'Hazebrouck ou des villes aux alentours après la Deuxième Guerre mondiale. On a quelque chose qui devait ressembler à ça, hein, quelque chose de détruit complètement et les gens à galérer tous les jours, voilà, une situation compliquée. Et donc, je me suis dit en le lisant, on peut faire le parallèle avec nous en fait. On peut faire le parallèle, alors pas tout le temps, heureusement, sinon on serait tous en train de pleurer là dans l'église, mais on a des moments, je pense chacun, où on est tout en bas. Alors il y a plein de raisons à ça, hein. Des fois avec la maladie, on perd le moral et on décroche et on se retrouve vraiment au ras du sol. Et des fois, c'est juste à cause de notre péché, à cause de notre désobéissance, on s'éloigne du Seigneur, on n'a plus la lumière, hein, du coup, il n'y a plus le détecteur de présence, et quand il n'y a plus la lumière, on tombe dans n'importe quoi. Et on finit par être dans une situation triste. On voit le fils prodigue aussi, hein, dans la Bible, qui se retrouve à manger avec les cochons et à se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Ouais, alors, du coup, c'est pas une prédique valable pour tout le monde, hein, je pense. Mais voilà, si on est dans cette situation-là, ou quand vous serez, si vous avez été, voilà, je peux mettre des mots comme ça, il y a une comparaison à faire avec Esdras Néhémie, ils ont tout reconstruit. On va peut-être pas tout anticiper, mais si vous allez à la fin des livres, on a un pays qui refonctionne à peu près, en tout cas une ville de Jérusalem qui refonctionne. Le temple a été reconstruit, les murailles ont été reconstruites, les gens sont revenus dans Jérusalem, les différentes personnes ont remis en route le service dans le temple, les chants avec les lévites, les fêtes qui sont relancées. Et donc tout a été reconstruit et reparti. Alors forcément, ça ressemblait moins beau qu'à l'époque, à la grande époque des rois d'Israël. Mais c'est reparti, quoi. Et il n'y a pas de situation désespérée et à se dire, là c'est mort, Dieu ne peut plus rien refaire, quoi. On peut partir d'aussi bas qu'on veut, Dieu peut reconstruire dessus et refaire quelque chose qui est vivant à la fin. Alors le premier groupe de personnes qui est revenu d'Israël, il est revenu avec Josué, dont vous entendrez parler dans Agé et Zacharie, qui était le souverain sacrificateur, et Zorobabel. Donc on entend aussi une prophétie qui le concerne dans les deux prophètes, qui était gouverneur. Alors, voilà, faut pas hésiter à lire les quatre bouquins ensemble, en fait, c'est beaucoup plus clair. Ils reviennent avec plus de 50 000 personnes. C'est ce qu'on lit dans Esdras 2. Bon, on n'est pas obligé de le lire, c'est pas plus intéressant que ça. Et après, il y a Esdras qui va revenir avec d'autres gens. Donc, la première étape, c'est de se dire, ah, il manque le temple, en fait. C'était leur première réflexion. Et même encore avant, ça a été de se dire, mais tout est désert, il faut qu'on se réinstalle, qu'on remette nos maisons en place. Voilà. Et c'est ce qu'on lit en Esdras 2 au verset 70. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les nétiniens s'établirent dans leurs villes. Tout Israël habita dans ces villes. Et on peut dire, quand on a lâché complètement avec le Seigneur, il y a plein de choses dont il faut reprendre possession. Il y a des villes, il y a la ville de prière, on a arrêté de prier. La ville de lecture de la parole, on l'a laissé tomber aussi, on ne la lit plus. Il y a plein de choses comme ça. On peut mettre beaucoup de choses derrière le terme ville. J'ai pas été fouillé plus loin parce qu'il y a beaucoup à voir. Mais il faut reprendre le terrain. Il ne faut pas le laisser au malin et juste se contenter d'un petit bout de quelque chose. Le Seigneur veut nous redonner l'ensemble du terrain, l'ensemble des villes. Alors, l'un des points importants, c'est qu'en fait, tous les premiers chapitres d'Esdras, ils se font sans Esdras. C'est, voilà, c'est lui qui raconte. Mais il n'est pas encore à Jérusalem, en fait. Il va revenir qu'au chapitre 6 ou au chapitre 7. Et donc, la première action qui va être faite, c'était de reconstruire l'autel et de reconstruire le temple. Donc ça, c'est le chapitre 3 d'Esdras, où on lit « Le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. » On va dire qu'on peut rassembler nos esprits, se dire « Bon, voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais pour remonter la pente ?» Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. On va voir plus loin, ils vont se dire aussi, il faut qu'on reconstruise le temple. Et le point qui m'intéressait dans tout ça, c'est que c'est juste avec les pauvres gens qui étaient regroupés là, que la reconstruction est partie. Et il n'y a pas. Esdras, il arrivait après. Néhémie, il arrivait après aussi. Ils avaient, juste avec ces quelques personnes qui étaient là, suffisamment pour repartir. Ils n'avaient pas besoin de, on va dire, d'intervention extérieure. Et ça me marque des fois de voir des églises qui disent bah, il faut qu'on fasse appel à un groupe de prophètes pour venir nous exhorter, nous faire trouver la voie du Seigneur. Ou après, il faudrait qu'on fasse venir des gens de l'extérieur, vous savez, un grand conférencier, quelqu'un de bien. Alors nous, à notre niveau, on va dire qu'il faudrait qu'on fasse venir Norman et Dave, ou des gens comme ça, parce qu'on a besoin d'eux. Mais, alors c'est pas de l'orgueil, comprenez-moi bien. C'est pas, on n'a pas besoin d'eux. Mais, on peut repartir sans eux. Il faut pas systématiquement attendre, pour le dire différemment, qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui revienne pour relancer les choses avec le Seigneur. Sinon, bah, là, vous n'êtes pas prêts parce qu'ils reviennent dans un an, Dave et ou Norman, on ne sait pas. Mais voilà, attendez pas un an, c'est dommage. Il y a les forces qu'il faut pour repartir quand il y a un problème. Et il ne faut pas toujours attendre quelqu'un d'extérieur. C'est pareil, c'est pas une. Enfin, je pense que ce n'est pas une question d'orgueil de se dire qu'on n'est pas obligé d'aller voir systématiquement les anciens quand on a un problème et qu'il faut quelque chose pour repartir. Je vais essayer de ne pas les regarder, ils vont me perturber. C'est pas une question d'orgueil, c'est pas une question. On peut avoir besoin de leurs conseils, on peut avoir aussi besoin par moment, on est tellement au fond qu'on ne voit plus rien en fait, on n'a plus le regard lucide. Et dans ce cas-là, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous dit voilà, écoute, clairement les choses c'est comme ça et qui peut nous appuyer. Mais la situation ne doit pas s'éterniser. Et alors, c'est peut-être un peu rude de ma part, un peu un manque d'expérience. Mais de mon point de vue, j'ai l'impression que les anciens, ils sont submergés de demandes. Et ils passent leur temps, avant les réunions, après les réunions, la semaine, le week-end, à aider les gens à soutenir, à faire le travail d'ancien, en fait. Hein. C'est pas là le problème. Mais je me dis, est-ce que leur travail pourrait pas être allégé d'une certaine manière si on se prenait en main nous-mêmes un peu, qu'on se mettait devant le Seigneur? Parce que finalement, ce que les anciens ils font, c'est quoi? C'est viens, je vais te mettre devant le Seigneur. C'est ça qu'ils font. Et on a des bons anciens, parce qu'ils pourraient faire plein d'autres choses, mais ils sont des modèles, et ils font que nous amener au Seigneur. Mais en réalité, on n'a pas besoin d'eux pour aller au Seigneur, il suffit de se mettre devant lui, et puis voilà. Je sais, c'est un peu rude, après, ça se trouve, dans une semaine, je serai au bout, et puis je dirais, Pascal et Alex, venez prier avec moi, mais ça peut arriver ponctuellement, ça ne doit pas être une situation de tout le temps. Sinon, vous êtes tout le temps en train d'avoir quelqu'un qui vous tient la main, qui vous aide, et au bout d'un moment, il faut être adulte, quoi. Il faut juste être adulte avec le Seigneur, grandir, se mettre devant lui, et voilà, c'est la vie normale avec le Seigneur. Juste de prier, lire sa parole et communiquer avec lui directement. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. C'est pas écrit, c'est les anciens que vous devez aller voir. Après, il y a d'autres versets qui disent, vous pouvez aller les voir pour prier avec vous, hein. Ça, j'essaye de mesurer mon propos. Mais réellement d'insister sur le fait que ce n'est pas une situation qui est durable, en fait. On ne doit pas passer notre temps à aller voir les anciens tout le temps, toute notre vie. Sinon, on a la situation, comme dans la Bible, d'être avec des béquilles tout le temps, en fait, et de ne pas réussir à marcher nous-mêmes. Mais bon, j'insiste pas plus, je veux pas froisser, mais je suis toujours un peu déçu de me dire, zut, heureusement qu'on n'est pas deux fois plus dans l'église, parce que là, ils craqueraient, en fait. Ils craqueraient, ils n'auraient plus assez de temps dans la semaine pour s'occuper des gens. Là, ici, Israël, ils sont repartis juste avec l'impulsion de Josué, de Zorobabel. Et on va voir après qu'il y avait déjà deux prophètes qui étaient sur place. Ils avaient des moyens, en fait, sur place, hein, juste pour s'exhorter, pour se mettre devant le Seigneur et dire, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur, pour repartir? Donc là, ils ont fait tout ça ensemble. L'idée ici, c'était de rebâtir le temple. Alors, pourquoi le temple? Je pense qu'il y a l'idée de Salomon derrière, la prière, qui dit, je paraphrase, hein, mais... Quand le peuple aura péché, quand il sera soumis aux ennemis, quand il sera soumis à la maladie, à tout ça, s'il se tourne vers le temple, s'il se tourne vers Jérusalem, là où tu as ton nom, qui prie, alors exauce-le. Et donc il y avait quelque chose de particulier, on voit dans les propos de Cyrus aussi, tout à l'heure qu'on a lu. Il dit voilà le Dieu qui est à Jérusalem. C'était le symbole de la présence de Dieu. Et du coup, là, pour eux, c'était important de, voilà, il faut à nouveau se mettre devant le Seigneur et c'est un peu rétablir le contact avec lui. C'était ça l'étape du temple et de l'autel. Donc, quand plus rien ne va, la première étape, c'est, je me remets à discuter avec le Seigneur. Et après, on fera le reste, mais c'est le travail principal. Alors, quand c'est comme ça, forcément, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bâtons dans les roues. C'est obligé, parce que vous remettez sur une bonne route, en fait. Quand vous vous mettez à reconstruire, à redialoguer avec le Seigneur, il y en a un à qui ça ne fait pas plaisir. Et donc, dans Esdras 4, on voit qu'il y avait des ennemis des Juifs. Et au premier verset, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et donc, on va voir les... Alors, très rapidement, je survole encore une fois, hein, mais les techniques un peu du malin. Là, au verset 2, ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices. » Ah, j'expliquerai un petit peu après, on va y revenir. Mais quand l'ennemi vous dit « Viens, je vais t'aider, je vais faire avec toi », il faut tout de suite dire non, non, stop. Il n'y a rien à voir avec ça. On en reparlera après. Ça vous paraît peut-être un peu obscur comme ça, mais on le réabordera après cette technique-là du malin. On voit après au verset 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. C'est encore une autre manière de faire du malin. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Donc ils l'intimidèrent, ils le découragèrent, et le but c'est quoi? C'est simple, hein, c'est pour l'empêcher de bâtir. Et plus loin on voit pour faire échouer son entreprise. Donc le malin c'est son seul but en fait. S'il peut nous bloquer avec le Seigneur, c'est tout bénef pour lui, c'est juste ce qu'il veut. Et donc à partir du moment où il ralentit la construction, c'est déjà un bon point pour lui. Et vous voyez que celui qui voulait construire quelques versets avant, hein, qui voulait construire avec vous, d'un seul coup, il se dit, maintenant, je vais faire ralentir la chose. C'est que son intérêt, il n'y était pas, en fait. On voit aussi qu'il accuse auprès des autorités. Ils ont envoyé une lettre au roi de Perse pour lui dire, le peuple est en train de reconstruire, tu sais que c'est un peuple rebelle, qu'il y a toujours eu des rois rebelles là qui étaient puissants, il faut les empêcher sinon ton autorité elle va disparaître de ce côté-ci du fleuve. Et donc le roi y répond et il dit effectivement faites tout arrêter parce que ce que vous dites c'est vrai. Donc ça ressemble dans un sens à notre époque à nous, à une persécution avec les autorités. Alors je crois qu'il n'y a pas trop d'exemples à donner, hein. Dans beaucoup de pays on le voit, et on peut dire nous dans notre pays il n'y a pas ça, sauf que si vous dites certaines choses vous pouvez déjà vous retrouver auprès des tribunaux. Il y a des lois qui sont passées qui font que ça va commencer à être compliqué de dire certaines choses en public. Si vous parlez d'homosexualité, si vous parlez d'un tas de choses, hein, si vous parlez de l'islam d'une certaine manière aussi, ça peut vous poser des problèmes. Il y a plein de choses, plein d'outils qui se mettent en place et qui font que le malin il pourra utiliser les autorités pour essayer de bloquer les églises, de ralentir. Et donc le malin il y est arrivé. Au bout de toutes ces tentatives... comment il s'appelle? On a la lettre. Voilà, du temps d'attaque Xerxès, au verset 7 du chapitre 4. Le reste de leurs collègues écrivirent au roi de Perse. La lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en araméen. Et donc le retour, c'est que arrêtez de construire. Et ça s'est arrêté pendant des années. Des fois, on fait un choix avec le Seigneur, de ne pas écouter ou de laisser l'ennemi gagner la partie, et ça s'arrête pendant des années. Et c'est long quand c'est comme ça. C'est long, et surtout quand à la fin, on se retourne et qu'on dit « Mais pourquoi j'ai fait ce choix-là à l'époque ? Pourquoi j'ai fait ça ? Ça m'a fait perdre des années de ma vie bêtement, j'aurais vraiment pas dû. » Mais c'est trop tard, c'est fait. Du coup, autant avant savoir les techniques du malin, dire « Voilà, quand je vois les choses se goupiller comme ça, il faut que je me réfugie auprès du Seigneur. » On va voir que Néhémie lui est arrivé à peu près la même chose. Il a toujours opposé la parole du Seigneur, il a prié le Seigneur pour dire « Voilà, cette œuvre, c'est la tienne, il faut qu'elle aille au bout. » Et du coup, il a pu mener les choses au bout. Et donc, pas mal d'années après, puisqu'il y a une série de rois de Perse qui sont passés entre les deux, il y a une nouvelle... Enfin, pour reprendre l'histoire au début, il y a Agée et Zacharie, les prophètes, qui exhortent le peuple et qui disent « Remettez-vous à construire le temple de l'Éternel. Construisez-le, l'Éternel sera avec vous, ça va bien se passer. » Donc, l'ennemi voit ça, il recommence la même technique, il renvoie des lettres au roi de Perse pour faire arrêter les travaux. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la réponse n'est pas du tout la même. Donc la lettre, elle est dans Esdras 5, on ne va pas la lire non plus. Quand je dis on ne va pas la lire, c'est qu'on ne la lit pas ici, après vous avez le droit de le lire chez vous, hein, bien sûr. Et donc dans Esdras 6, on a le Darius. Alors Darius, je ne peux pas vous dire si c'est le Mède ou le Perse, parce qu'ils étaient plusieurs à s'appeler Darius. Donc je n'ai pas poussé jusque-là l'étude encore, mais voilà, il y a plusieurs rois Darius. Donc, celui-là, en tout cas, donne l'ordre de faire des recherches. À Esdras 6, au verset 1, dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Donc, il a trouvé un rouleau qui expliquait effectivement la situation et qui expliquait que Cyrus, roi de Perse lui aussi, avait ordonné la construction de tout ça. Et donc, il répond aux ennemis du peuple d'Israël, au verset 6, « Maintenant, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shethar-Boznaï et vos collègues d'Apharsac qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. » Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Et le soin qu'il met, c'est encourageant, hein, de se dire un roi de Babylone, roi de Perse, qui prend soin du peuple, qui dit « Voilà, vous allez lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il puisse construire. » Ça arrive. Donc au verset 9, « Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile, seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. » Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché, et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Oh, imaginez la tête des gens qui ont reçu la lettre. Ils se disent, on va recevoir une lettre, on va aller voir les Juifs et tout faire arrêter encore une fois. Et là, ils reçoivent ça et... Waouh ! À notre époque, on mettrait une copie du mail aux Juifs aussi. Donc, je sais pas... Les Juifs ont reçu une copie du courrier, on va dire. On sait pas exactement comment. Mais l'encouragement que Dieu donne au moment où il y a besoin. Alors, ce qui est étrange, c'est que on a un roi, Cyrus, qui dit, allez-y, rebâtissez. Hop, et il laisse les gens emporter plein de choses pour rebâtir. Et quand il y a un problème, on s'adresse au roi suivant qui dit « Oh, arrêtez tout, arrêtez tout !» Et on se réadresse au roi encore suivant et « Allez-y, allez-y, construisez, surtout, faut pas s'arrêter. » Alors nous, ça nous paraît un peu désarticulé comme histoire. Mais voilà, il y a plein de points qu'on ignore. Déjà, il y a prise en compte de la prophétie, parce qu'il y a des choses qui étaient écrites comme ça. L'édit de Cyrus, il était prévu 100 ans avant par Ésaïe. Donc ça allait s'accomplir. Après, c'est sûr qu'il y a il y a un chemin qui n'est pas tout droit, mais ça devait s'accomplir. Donc ça, quoi qu'il arrive, il devait y avoir un moment, un roi de Babylone, de Perse, qui allait autoriser la reconstruction et qui allait permettre que ça aille jusqu'au bout. Après, on ne sait pas non plus comment le peuple d'Israël il a vécu ça. Et ça, c'est notre point. Nous, ça se trouve, la première fois qu'ils se sont fait accuser, ils ont laissé les choses un peu à la légère. Alors j'extrapole, hein, c'est pas écrit, d'accord? Mais voilà, la deuxième fois, on peut dire qu'il y a peut-être des gens, les prophètes, qui ont dit au peuple, il faut prier pour ça, il faut prier parce que Dieu, il peut orienter la main des autorités dans notre sens, il faut prier. C'est des paroles qu'on a nous, hein. Des fois, on prie, on dit, mais le Seigneur, il peut toucher les autorités et que ça aille dans le bon sens. Et peut-être qu'à ce moment-là, les gens se sont dit, c'est vrai, il faut qu'on prie, sinon ça repartira jamais. Et on voit l'effet derrière de la prière. Moi, je pense qu'il y a forcément une prière quelque part pour que ça tourne aussi bien que ça. Sinon, ça aurait pu continuer à galérer pendant des années. Esdras 6, à partir du verset 14, donc, le résultat, c'est quoi? C'est les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agée, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent, d'après l'ordre du Dieu d'Israël, d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, dans la sixième année du roi Darius. Voilà, ça, c'est une première étape. Alors, c'est fastidieux, c'est long, c'est difficile, mais c'était la première étape qui était nécessaire. Maintenant, le peuple, il pouvait à nouveau louer Dieu dans son temple, il pouvait prier dans son temple, et pour eux, c'était quelque chose qui était vital, quoi. Je vous ai parlé de la prière de Salomon, mais je crois que c'était l'état général des Juifs. De se dire, Jérusalem, s'il n'y a pas de temple, on n'a plus de Dieu, en fait. C'était un peu ça le pour eux. Et on voit dans le Nouveau Testament que l'Esprit, il est resté à peu près ça. Quand il y a le... Comment ça s'appelle? La femme samaritaine qui s'adresse à Jésus, elle dit, bah ouais, mais alors vous, vous dites que c'est là qu'il faut prier, nous on dit que c'est là. Alors Jésus, il y remet les choses d'équerre, il dit, non, en fait, il n'y a pas un lieu géographique où il faut prier. Il y a une manière de prier. Mais on voit que l'esprit des Juifs, c'était, il y a Jérusalem. Et s'il n'y a pas Jérusalem, on n'a pas Dieu. Et donc là, ils ont fait nécessaire, même si ça peut paraître un peu presque superstitieux, hein, mais ils ont fait nécessaire pour réobtenir la présence de Dieu au milieu d'eux. Et ça, c'était important. C'était la base pour commencer à reconstruire. Et donc, ils ont rétabli les sacrificateurs, les lévites dans leur fonction, et ils ont célébré la Pâque. Donc, c'est déjà un début de renouveau, on va dire. Et en fait, c'est à ce moment-là, on le voit au chapitre 7, que Esdras arrive en Israël. Donc tout ça, ça s'est fait sans aide extérieure. J'y reviens, hein, je suis peut-être un petit peu lourdeau, mais je trouve c'est important de pas d'être orgueilleux, de dire j'ai besoin de personne. C'est pas vrai, régulièrement on a besoin d'être aidé. Mais de pas systématiquement aller chercher l'aide extérieure. Alors, je passe sur Esdras parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on voit dans Esdras dans les chapitres suivants. Et qu'on va, donc Esdras, ça s'arrête au chapitre 10, hein, si je ne me trompe pas. Donc les 7, 8, 9, 10, on va voir qu'il va remettre en route beaucoup de choses. Mais c'est des choses qu'on retrouve en partie dans Néhémie. Et aussi, si on fait tout en détail, j'aurais jamais fini. Donc j'attaque juste sur Néhémie. Et de toute façon, il y a des points communs entre les deux. En fait, ils ont été pendant une période, ils ont été à deux en même temps dans Jérusalem et ils ont travaillé à deux. Et c'est intéressant aussi, hein, de se dire, finalement, des fois, on peut se sentir seul, à dire, allez, faut pousser, faut être la loco. C'est peut-être ce que se disent les anciens des fois, hein, faut être la loco et puis tirer tout le wagon derrière pour que ça avance. Quand il faut, le Seigneur, il met une deuxième loco pour que ça aille mieux. Là, on a trois locos dans l'église, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, l'un des premiers points, donc c'est une vision orientée hein, d'Esdras et Néhémie que je vous lis là. Je suis d'accord avec vous, mais je l'ai focalisé sur juste la reconstruction et les points qui m'intéressaient. Donc, après, à vous à lire, il y a plein d'autres choses. On a lu les premiers versets de Néhémie tout à l'heure. C'est ça. Donc, on a lu les premiers versets. Je passe dessus aussi parce que je vais être court avec le temps, mais je vous encourage grandement à lire le premier chapitre de Néhémie et à y réfléchir parce qu'en fait c'est sa prière à Dieu et c'est un peu de... Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de contrition de dire c'est moi qui ai péché alors que lui-même, on n'a pas l'impression qu'il était pour grand-chose, hein. Il faisait son travail auprès du roi de Perse. Mais il s'identifie à son peuple, il demande pardon pour ses péchés et on voit qu'il cherche le bien du peuple, en fait. Il prie pour ça. Et je pense que sa prière, elle est fort intéressante pour nous à lire, à étudier, parce qu'on lit beaucoup le Notre Père. Hein. C'est une prière. C'est un modèle de prière. Il y a d'autres modèles de prière dans la Bible et je trouve sa prière à Néhémie est vraiment intéressante. Et il y en a une, si je ne me trompe pas, dans Esdras 4 ou quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, vous lirez les deux bouquins complets, vous tomberez dessus. Hein. Mais réinsister sur ces deux-là, ils sont intéressants. Donc, Néhémie chapitre 2. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Atarxerxès, un nom pas facile à prononcer lui, hein. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit : Pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi : Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ? Le roi me dit : Que demandes-tu ? Et là, il a mis une heure pour prier et être sûr de ce qu'il devait répondre. Non, oui. Alors, la phrase, je trouve extraordinaire. Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi. Donc, finalement, ça lui ressemblait à mais qu'est-ce que tu veux faire ? Seigneur, dirige-moi. Alors, roi, je voudrais faire ci. Voilà. Ça a dû durer, voilà, une seconde, quoi, deux secondes à tout casser. N'imaginez pas que le roi, il va attendre 10 minutes. Bon, alors, tu me réponds pas. Il n'a pas eu le temps de prier plus longuement de ça. Et je ne sais pas pour vous, moi, j'abuse de ces prières-là. Il y a plein de situations où vous n'avez pas le temps de prier. Juste ça, en fait. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, voilà, dirige ça. Moi, je vais au boulot le nombre de fois où je prie dans les couloirs. Parce que, voilà, allez, je fais des situations où vous allez soit vous reconnaître, soit en avoir d'autres qui vont venir. Mais la directrice qui appelle, vous pouvez me voir dans mon bureau, Michael ? Vous savez de quoi je veux parler ? Allez, une grande inspiration, on se lève, on ouvre la porte du couloir, et dans le couloir, Seigneur, dirige les choses pour que ça se passe bien, Seigneur, que je sois correct, que je réponde, voilà. Hop, et vous arrivez dans le bureau et c'est parti. Ou alors, voilà, il y a une situation qui se passe mal, un dérapage, je devais recadrer un collègue. C'est pas rigolo, ça, non plus. Bon, toi, tu viens, tu me suis, faut qu'on discute. Vous lui ouvrez de la porte, et pendant que vous ouvrez la porte, Seigneur, dirige mes propos, donne-moi de l'amour pour lui, Seigneur. Allez, c'est parti. Et vous n'avez pas plus que ça, de toute façon. Il y a plein de situations. Et ce qu'on oublie assez souvent, c'est la suite, en fait. C'est quand vous voyez la réponse, parce que vous la voyez, la réponse. Il y a un nombre de fois où je ressors du bureau, je me dis, oh, comment ça s'est passé super bien j'étais sûr que ça allait tomber à la catastrophe, et oh Seigneur, écoute, merci beaucoup. Et là, c'est pareil, vous avez le temps dans le couloir, vous pouvez traîner dans le couloir, du coup, vous avez plus le temps. Mais de merci Seigneur, merci, merci. Et on l'oublie ça, parce que souvent on se précipite pour « Ah Seigneur, j'ai besoin de toi », parce que c'est l'urgence, parce que c'est l'appel de détresse. Hein. Mais derrière, on repart et voilà, et en fin de journée, on dit « Ah ouais, c'est vrai, j'avais prié pour ça, ouais, il a répondu ». Et puis voilà, autant on a mis de l'urgence à prier pour la demande, autant pour la réponse, on était un peu longué pour le merci. Il y a plein de choses comme ça. Alors, il ne s'agit pas, c'est toujours pareil, hein, faut de la mesure dans tout, mais de prier que comme ça. Mais on sait qu'on peut faire confiance au Seigneur et de manière ultra rapide. Et il dirigera. Vous n'avez pas besoin de lui faire un discours d'une heure, lui expliquer, tu vois la situation, ça fait 6 ans avec ma directrice. Non, il s'en fiche, il le sait. Tout ce qu'il veut voir, c'est votre attitude de confiance envers lui. Dire, bah, Seigneur, c'est entre tes mains, je ne peux rien faire. Et combien de fois on ressent, on se dit, oh. Je ne pouvais même pas imaginer que ça se passe bien comme ça. Et à la fin, vous dites vraiment, s'il n'y avait pas eu cette prière d'une seconde, c'était la catastrophe. Un peu plus loin, donc il explique au roi qu'il voudrait rebâtir, hein, c'est les versets qu'on saute, c'est ça. Et il dit, voilà, si ça plaît au roi, qu'il me renvoie dans mon pays et que je puisse aider à rebâtir la maison de l'Éternel, à rebâtir les murailles, tout ça, la ville. Et on voit que le résultat, il est là, hein, d'ailleurs. Sa prière, elle est exaucée, parce que tout à la fin, on voit le roi me donna ses lettres, donc il a les lettres de recommandation, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je suis sûr qu'il n'a pas oublié le merci après, quand il est reparti. Donc, il se rend, au verset 9, « Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. » Sambalat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. On a là aussi on voit typiquement le diable, le malin, qui, voilà, quelqu'un qui vient pour faire du bien au peuple, ça lui procure un grand déplaisir. C'est terrible, hein, mais il est comme ça. Donc la première chose que fait Néhémie en arrivant, on le voit au verset 11, « J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ses portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, je fus ainsi de retour. » Alors pourquoi tout ça? Bah parce qu'il fait le tour du proprio, il dit « Bon voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et il ne pouvait pas juste, c'est pareil quand vous arrivez sur un poste en fait, hein, il faut faire une espèce d'état des lieux, et dire voilà, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui reste en état, qu'est-ce qui reste plus en état, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, dans quelle priorité, et voilà, il faut regarder avant en fait. Et ce qui est important aussi, c'est qu'après il va le dire. Donc au verset 16, « Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent « Levons-nous et bâtissons » et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Il y a une étape avant de reconstruire qui est d'avouer, en fait. Juste de constater « Ah voilà, ma vie, elle est en morceaux » ou alors ouais, « Seigneur, c'est vrai qu'il y a ça qui se tient encore dans ma vie, mais là c'est le bazar, il n'y a plus rien. » Et après, il y a l'idée de le confesser, en fait, de l'avouer. Et des fois, on est juste dans la situation de, voilà, il faut que tu vois ça dans ta vie. Moi ? Non. Ah, tout va bien, moi. Tout va bien. C'est la phrase de la magique de mon directeur. Bon, là, il est plus avec nous pour l'instant, mais tout va bien. On pouvait lui expliquer une situation qui était mais catastrophique et sortait du bureau. Tout va bien. Bah, pas trop, non. Et c'était voilà. Et vous rigolez, mais d'une certaine manière. Quand il est parti, qu'on a pu, ce tout va bien tout le temps, eh ben l'ambiance, elle s'est dégradée d'un seul coup. Parce que, voilà, on travaille, hein, on travaille, et à force de dire tout va bien aux gens, même s'il y a des ratés, on se dit que ouais, c'est peut-être pas la mer à boire, hein, il y a pire, il y a des situations plus compliquées que ça, et voilà. Après, voilà, il ne s'arrêtait pas à dire tout va bien, il faisait aussi le nécessaire pour. Mais juste, on a ça devant les yeux et puis non, moi tout va bien dans ma vie, rien. Il n'y a rien à voir avec le Seigneur, je suis nickel. Alors on va pas dire que je suis parfait hein, parce qu'on n'est pas comme ça. Mais on se cache en fait, on se cache de nos problèmes et la première chose qu'a fait Néhémie en arrivant, c'est constater et c'est l'avouer, le dire tout haut devant tout le monde, dire voilà, c'est la base, c'est se dire que tout est bousillé. Et après, on peut reconstruire. Si c'est pas abîmé, qu'est-ce que vous déployez comme énergie à reconstruire ? Puisque c'est pas abîmé, il manque une certaine cohérence là-dedans. Donc là, on est encore une fois, parce que c'est l'eau de la vie chrétienne, hein. Il y en a un à qui ça fait pas plaisir, c'est l'ennemi, parce qu'il y a encore une fois quelqu'un qui est arrivé pour faire du bien, pour reconstruire. Et donc on voit à Néhémie 2, verset 19, « Sambalat le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi ?» Ils sont repartis comme avant en fait, hein. Il y a toujours eu des ennemis du peuple. Alors ce n'était pas forcément ceux-là qu'on lisait dans Esdras, mais voilà, il y a toujours eu des gens pour essayer d'arrêter l'œuvre en fait, simplement de la bloquer et de décourager les gens. Donc si dans un sens vous vous levez, vous dites je voudrais que ça se règle dans ma vie. Le Seigneur m'a montré que ça n'allait pas, je veux le remettre en état. Et si vous arrive des découragements, des intimidations, des choses comme ça, au bout d'un moment vous dites je sais celui qui est à l'origine de tout ça. Je sais ce qu'il veut faire, c'est arrêter, c'est bloquer la construction. Et c'est bon de le savoir parce que du coup, voilà, on s'attaque pas au Seigneur. On dit, Seigneur, tu me lâches, tu fais ceci. Non, c'est parce qu'il y a le malin derrière qui essaye de vous saper. Et la réponse de Néhémie, elle est, je leur fis cette réponse au verset 20, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Voilà. Il est clair, il est précis et il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Et quand on voit le nombre de fois où ils ont voulu essayer d'aider à construire, de faire ceci, il fallait à tout prix que ce soit coupé net. Sinon, ces gens-là, ils seraient venus et puis ils auraient fait n'importe quoi dans la ville. Ils auraient introduit des idoles d'une certaine manière. Ils auraient changé l'objectif initial, dire non, on va peut-être pas faire les choses comme ça. Voire ils en auraient profité pour tuer le peuple pendant qu'ils construisaient. Ce qu'ils ont essayé de faire après, d'ailleurs. Alors, Néhémie, il s'appuie, il est brutal, hein, dans un sens, quand il dit, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons, nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. C'est brutal, mais c'est la parole de Dieu. Parce que c'était écrit dans la parole que l'Ammonite, le Moabite, il pouvait pas faire partie du peuple, en fait. Alors, il y a eu des exceptions, malgré tout, parce que Dieu est bon. On pense à Rahab en particulier. Mais la parole, c'était ça, et du coup, il se contentait de la parole de Dieu. Il s'est dit, voilà, c'est ça qu'a dit le Seigneur, c'est comme ça que ça doit être. Et là aussi, c'est bien pour nous de nous. Voilà, on a des choses dans la Bible, il faut s'y tenir, et d'une manière claire. Il ne faut pas commencer à faire des compromis, des choses qui ne vont pas. Ça, on en reparlera rapidement après. Donc, au chapitre 3 et 4 de Néhémie, on lit que la muraille se reconstruit à plusieurs endroits. Et Paul en a parlé, en fait, hein, la muraille, il en a parlé il y a 15 jours ou 3 semaines, je crois. C'est juste le contrôle des entrées-sorties. Si vous ne faites pas ça, n'importe qui peut rentrer dans la ville, n'importe qui peut sortir, et vous ne protégez rien du tout. Et là, le temple, c'était bien de l'avoir rebâti, mais il faut le protéger des attaques extérieures. Donc il fallait la muraille de la ville pour que le temple y soit à l'abri. Donc, on voit à Néhémie, donc le chapitre 3 raconte la construction, et au chapitre 4, au verset 1, lorsque Sambalat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Et donc, je ne vais pas tout lire, mais il se moque complètement du peuple et il essaye encore une fois de les décourager. Finalement, et je pense que ça arrive régulièrement à ça, hein. L'ennemi en arrive au physique. Il a essayé de décourager, d'intimider, voilà, de jouer sur le mental, et quand il n'y arrive pas, eh ben, je vous laisserai lire, hein, mais globalement, ils préparaient des attaques physiques. Ils étaient armés et ils essayaient de venir attaquer le peuple pendant qu'ils construisaient. Forcément, quand vous construisez, vous ne regardez pas toutes les 30 secondes autour de vous s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Et donc Néhémie a dû faire le nécessaire pour faire armer le peuple qui construisait, pour qu'il y ait une partie qui surveille pendant que l'autre construise. Enfin, il a dû faire le nécessaire, prendre les décisions nécessaires, parce que l'ennemi en arrive à vouloir attaquer physiquement. Et je pense que c'est l'une de ces façons de faire aussi. En écrivant ça, je pensais à Job, typiquement. Le malin, il a tapé autour, alors très proche, hein, parce qu'il a tué ses enfants, le bétail, les richesses, et au bout d'un moment, il a touché le corps de Job, il l'a touché physiquement. Mais, parce que le diable, il avait l'autorisation de Dieu de faire tout ça. C'est important de le savoir, hein, parce que sinon, on pourrait dire, il a la main libre, il peut tuer qui il veut. Non, 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 non. Il est limité, et Dieu sait exactement où lui place la limite. Ça, c'est important pour nous aussi. Alors on voit la réaction de Néhémie au verset. Non. Donc le verset 8, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu, et il ne s'est pas contenté de prier, ça aussi c'est intéressant. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Et je pense que c'est aussi quelque chose d'important quand on est chrétien de ne pas laisser tomber complètement notre bon sens, de ne pas laisser tomber du tout d'ailleurs. Sauf s'il avait reçu une parole spécifique de Dieu, sinon il n'y avait aucun intérêt à dire voilà, je prie, et puis maintenant je risque plus rien, allez, je construis, je fais pas attention. Néhémie, il a fait le nécessaire, il a armé les gens, il a mis des gens en surveillance, il a fait ce que le bon sens lui dictait. Et je pense que dans la plupart des cas, il faut garder notre bon sens et faire les choses correctement. Et Après, voilà, si Dieu il avait donné une parole, ne crains rien, tu n'as pas besoin de t'affoler, de te défendre, je serai là, eh bien, ils auraient pu faire exactement comme on a dit. Ils construisaient sans soucier de quoi que ce soit. Mais en l'absence d'une parole bien précise de Dieu, il faut le bon sens, il faut dire, voilà, moi, je prends les décisions nécessaires, et après, le reste, c'est du ressort de Dieu. J'y peux pas grand-chose. Et il ne faut pas, juste dire je prie, puis voilà, mon bon sens, il ne sert à rien. De toute façon, je suis chrétien, il n'y a pas besoin de bon sens. Voilà, c'est un côté un peu bête, quoi. On a beau être chrétien, on fait attention à nos comptes, tous autant qu'on est. Parce que, bah voilà, le Seigneur ne va pas nous envoyer des billets tous les jours qui tombent du ciel, ni même un jour. Voilà. Je dis tous les jours, mais déjà que ça arrivera une fois, ce serait. Et il ne le fait pas, il compte sur notre bon sens pour gérer correctement les ressources qu'il nous donne. Et voilà. On va être obligé d'accélérer, j'ai plein de choses à vous dire. Bon, une fois qu'ils ont terminé les murailles, parce qu'ils y sont arrivés quand même, hein, c'était pas évident, Néhémie, ce qu'il a fait, c'est un grand travail de mise en conformité, en fait. On va pas prendre tout le détail, parce qu'il y a un point sur lequel je voudrais insister, mais voilà, on a l'impression qu'il y avait le stade minimal, vous savez, il y a le temple, il y a la protection, et derrière, bah, c'est voilà, c'est un peu l'image peut-être, c'est peut-être pas tout à fait la bonne, mais je suis dans l'église, je suis baptisé, je crois au Seigneur. Bon, super, mais c'est la base. C'est la base. Derrière, il y a plein de choses. Ma vie, elle n'est pas parfaite. Il y a plein de trucs à voir avec le Seigneur, à grandir avec lui. Et au bout d'un moment, même juste à bénéficier de sa vie, sans tout le temps être en train de courir, construire, faire quelque chose. Voilà, la vie avec le Seigneur, c'est juste profiter de lui, quoi. Mais profiter dans le bon sens, je veux dire. Bénéficier de sa présence sans tout le temps être en train de courir, de construire, de refaire ci, de faire ça, voilà. Et donc là, la base c'était ça. L'étape d'après, c'est tous les petits points qui vont pas, on les remet d'équerre aussi, on laisse pas. Parce que si vous laissez, au bout d'un moment, ça va plus tourner correctement. Vous aurez beau avoir une muraille, un temple à l'intérieur, on a vu à plein de moments dans l'histoire d'Israël, hein, il y avait un temple, mais il y avait de l'idolâtrie au sein même du temple, au sein même des murailles. On avait les murailles en deux couches, hein, et les gens, ils étaient planqués, ils faisaient des cérémonies à d'autres dieux, à d'autres idoles. Et il faut attaquer tous les points, faut pas en laisser un seul. Faut pas laisser un seul point au malin dans notre vie. Alors, dans la liste, il y en a plein, je donne juste quelques éléments. Les gens faisaient des prêts avec intérêt à leurs frères. Ils leur disent, ça, c'est pas, dans la loi, c'est pas comme ça. Donc ça, faut arrêter ça. Les gens avaient plus leur propriété, on voit au chapitre 5. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants. Voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles. Et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force et nos champs, nos vignes sont à d'autres. Imaginez, le peuple d'Israël, ils étaient en train de se voler les uns les autres, en fait. Après ça, Néhémie n'a pas profité de son statut de gouverneur. Il le mentionne. Là, j'aurais pu bénéficier, faire travailler un tel, récupérer ça parce que j'étais gouverneur. Mais non, il y a eu un travail aussi de sa part à lui. C'est pas que faire travailler les autres. Alors, je vous le lis juste comme ça rapidement, mais c'est pareil, je vous encourage à le lire. Il rétablit dans leur fonction les portiers, les chantres, les lévites. Il fait une lecture publique de la loi. Il l'explique, et c'est là où il mentionne Esdras. Il rétablit les fêtes prescrites par Dieu. Il proclame un jeûne, il lit la loi, il proclame la confession des péchés. Il rappelle aussi quand il prie l'histoire d'Israël et de son infidélité. C'est bien aussi de se souvenir de son passé comme a fait José. Et voilà, j'étais pécheur mais Dieu il m'a sauvé. Il fait signer une alliance par les chefs, les lévites et les sacrificateurs afin d'observer la loi. Et il organise le repeuplement de Jérusalem. Il fait un tas de choses comme ça. Et nous dans notre vie il y a plein de choses qu'on peut remettre d'équerre. Les gens avaient abandonné le sabbat aussi. Donc en cours de route, Néhémie remet le sabbat en route, il repart auprès du roi de Perse, et quand il revient, il dit « mince, c'est encore une fois retombé ». Et dans notre vie, c'est un peu comme ça aussi. Hein. Des fois, on avance avec le Seigneur, et puis des fois, on fait marche arrière sur certains points. Et il ne faut pas juste continuer la marche arrière, hein. Faut tirer un bon coup de frein à main, et puis tirer un bon coup de frein à main, et juste après repartir de l'avant. Faut pas laisser le malin prendre des points et vous faire reculer. Et je dis « vous, c'est moi aussi hein. ». Je suis pas en train de vous faire une leçon, c'est tout à fait pour moi aussi. Bon, je passe. Je savais que j'étais long. Hein. Quand j'ai vu le nombre de pages, je me dis, oh là là, ça va être compliqué. Paul en a parlé aussi dans sa prédication la fin dernière. L'ennemi, voyant que la muraille était rebâtie, il utilise une autre technique. Il dit, viens, viens parler, viens discuter avec moi, il faut que je te dise quelque chose. Et là, la réaction de Néhémie, elle est bonne. Il dit, je peux pas, j'ai un grand ouvrage à effectuer. Je peux pas. Et puis, il se complique pas plus la vie. Et là, l'ennemi va insister plusieurs fois, jusqu'à ramener une lettre ouverte qui mentionne que Néhémie va se rebeller contre le roi. Voilà, il y a de quoi faire peur à Néhémie. Il y aura une fausse prophétie à un moment, à quelqu'un qui va dire, il va venir t'attaquer, réfugie-toi dans le temple. Et Néhémie, il dit, mais non, c'est pas ma place dans le temple, j'ai pas le droit d'y être. La loi de l'Éternel, c'est pas ça. Il dit, je reconnais que c'était les ennemis qui le poussaient à prophétiser de la sorte. Ça peut aller loin, hein, les techniques de l'ennemi pour nous perturber. Et alors, l'idée sur laquelle je vais terminer et qu'on retrouve un peu dans Esdras, dans Néhémie, mais que c'est une idée générale dans la Bible, c'est la séparation d'avec les étrangers. Alors, je m'explique. Il ne s'agit pas de parler de racisme ou de parler d'étrangers, au sens les gens qui ne seraient pas français. Parce que si on veut jouer ce jeu-là, nous sommes des étrangers pour le peuple juif et nous ne faisons pas partie du plan. D'accord ? Donc, je vais être très très clair quand je parle d'étrangers, c'est la notion de séparation d'avec les païens, d'avec ceux qui ne croient pas au Seigneur. Et là aussi, il faut faire attention à ne pas dire on est là pour être voilà, entre nous, on ferme les portes et on ne veut plus voir les gens qui ne sont pas chrétiens. Mais il y a une notion de ne pas faire alliance, de ne pas s'unir avec les étrangers, en fait, avec ceux qui ne croient pas au Seigneur. Et c'est, je pense, l'idée qui est derrière, c'est la sanctification, être mis à part. Ne pas se mélanger avec ce qui ne plaît pas au Seigneur. On la retrouve à plein d'endroits dans la Bible, mais dans Esdras, dans Néhémie, on le retrouve vraiment de manière répétée. C'est quelque chose sur lequel il insiste. Et je pense, dans le cadre où on parle de reconstruction, on peut se dire que ce qui a amené la chute, c'était quoi? La chute d'Israël, c'était l'idolâtrie, et l'idolâtrie parce qu'ils avaient laissé les peuples autour, pour beaucoup, et qu'ils s'étaient mélangés avec les peuples, qu'ils avaient mélangé leurs coutumes, leur adoration avec les peuples qui étaient autour. Et ils s'étaient laissés un peu contaminés. Alors, contaminés, c'est mal trouvé dans un sens, parce que ça donne l'idée que c'est pas de notre faute. Or là, le peuple juif, il a fait un peu un choix de pas suivre Dieu. Et donc, il faut faire attention de ne pas faire ce choix de se mélanger comme ça. Et c'est au chapitre 13 de Néhémie, il sépare le peuple d'avec les étrangers, en particulier les Ammonites et les Moabites. Et on a parlé d'un monsieur qui s'appelle Tobija depuis tout à l'heure, qui était l'ennemi du peuple, et ça dit que c'est un serviteur ammonite. Et le sacrificateur lui avait même laissé une place dans le temple pour lui, pour ses affaires. Vous voyez qu'il y avait des mélanges comme ça. On peut reprendre aussi cette proposition dont je vous ai tout à l'heure. L'ennemi dit, viens, je vais t'aider à construire. C'est non, 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 non. Parce qu'à partir du moment où lui, il vous aide à construire quelque chose, voilà, il y a une union quelque part qui ne peut pas plaire au Seigneur, qui ne peut pas marcher. Donc le Néhémie 13... Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse et on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux, à prix d'argent, Balaam pour qu'il les maudisse. Donc lorsqu'on a entendu la loi, au verset 3, on sépara d'Israël avec tous les étrangers. Après, on voit l'idée du sacrificateur qui avait laissé une place pour Tobija. Et on voit un endroit où il dit, voilà, ils étaient tellement mélangés avec les nations autour qu'il y a des gens, leurs femmes ne parlaient pas hébreu et les enfants ne parlaient pas hébreu non plus, en fait. Et donc, ils avaient tellement importé l'extérieur que la nature que Dieu leur avait donnée d'être le peuple de Dieu, elle était souillée, elle était diminuée et on ne la retrouvait plus. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Ça s'adapte à plein de choses dans notre vie. Je pense que la première idée, c'est toujours important, je vais bien fixer les jeunes, je pense, c'est que quand on ne se marie pas avec quelqu'un qui n'est pas au Seigneur. C'est super important. Et on vous le répète, on vous le dit souvent, mais c'est vital, en fait. Il peut y avoir des rares exceptions où ça va le faire, où le Seigneur va sauver l'autre. Mais c'est des rares exceptions. Et on ne peut pas juste s'appuyer sur ça, dire, bon, voilà, le Seigneur, il va sauver, et je peux lui faire confiance. Non, 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 non. Vous êtes déjà en train de vous mélanger avec quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Et vous ne savez pas ce qui arrivera après. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est-à-dire ne pas se marier, c'est-à-dire ne pas commencer une histoire avec quelqu'un qui n'est pas au Seigneur, en fait. Ça part dès le début, parce qu'après, vous commencez à vous engager tout doucement. c'est important. C'est l'une des choses, mais après, on peut le voir aussi au niveau du travail. Dis, je vais créer mon entreprise, je vais la créer avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Vers quel but? L'argent, c'est pas le vôtre, normalement. Et alors l'autre, il sera peut-être gentil, lui, il a des bonnes intentions au départ, mais il ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est quoi la base de sa vie à lui? On pense des fois, Alex en a déjà parlé, un groupe de musique, vous vous retrouvez au sein de gens qui ne sont pas chrétiens, vous ne savez pas où ça va ramener tout ça. Et il y a plein d'exemples comme ça où le Seigneur nous dit, mais ne te mélange pas avec eux. Alors après, ah, je suis conscient, hein, je travaille avec des gens, il n'y a pas un seul chrétien dans les six étages. On ne peut pas juste quitter tous notre boulot en disant, bah, ce n'est pas des chrétiens, donc je ne bosse pas avec eux. Mais c'est quand vous commencez à construire quelque chose, il y a vraiment des moments où vous avez un choix à faire, vous dire, voilà, là, je vais vers un objectif, je ne peux pas inclure quelqu'un qui n'est pas au Seigneur parce que cet objectif, c'est le Seigneur et que lui, il ne l'aura pas en même temps que moi. Et c'est adaptable à plein de situations, il faut réfléchir nous dans nos propres vies, mais ça peut être à plein de niveaux, ça peut être juste je crée une association pour un but, bah, si les gens ne sont pas chrétiens dedans, au bout d'un moment ça ne va pas coller non plus. Il y a plein d'exemples, hein. Je ne peux pas juste être beaucoup plus long que ça, mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on ne s'unisse pas, qu'on ne s'allie pas avec quelque chose qui ne lui plaît pas. On doit être saint, être sorti du monde, même si on est à l'intérieur, hein, mais on n'est pas du monde. On ne peut pas faire les mêmes choses que le monde, on peut pas aller faire la fête avec le monde de la même manière parce que de toute façon on ne se sent pas bien. Il y a quelque chose qui ne colle pas et ça arrivera à un moment ou à un autre. Et dans le cas d'un mariage, c'est encore plus périlleux, c'est pour ça qu'on insiste tout le temps, mais après, quelle gestion des enfants, quelle gestion du temps, quelle gestion de l'argent on fera avec la personne. Si nous, on est tout orienté vers le Seigneur, bah, ça coincera forcément. Votre priorité, ce n'est pas l'autre, c'est le Seigneur dans le mariage. Et c'est un peu rude. Mais du coup, si vous dites ça à quelqu'un qui n'est pas chrétien, vous dites, mais t'es fou, toi. Bah ouais, mais voilà, faut que je trouve quelqu'un de fou comme moi pour me marier. C'est comme ça. Voilà, il faut surtout pas prendre d'engagement qui mettrait en péril notre foi. Je vais juste m'arrêter là. Il y a plein de choses dans ces deux livres. Hein. C'est difficile de tout regrouper comme ça. Pourtant, j'ai eu 50 minutes, je crois. Mais c'est dur. Juste les idées rapidement. Hein. On ne doit pas systématiquement compter sur les autres pour nous sortir de l'ornière, pour nous aider à reconstruire. Voilà, les anciens, ils font très bien leur boulot, mais si on pouvait leur alléger, ils le feraient d'autant mieux, je pense. On a vu plein de techniques de l'ennemi et surtout ce à quoi elles servent. Elles servent à ralentir, à bloquer la construction. Donc quand on voit les choses s'orienter comme ça, on se dit qu'il est en train de gagner, qu'il y a quelque chose à faire. On a parlé de la prière de Néhémie. Je vous encourage vraiment à lire les prières d'Esdras et de Néhémie. Elles sont vraiment très bien. Même le gros œuvre terminé, il y a plein de choses dans notre vie. Il n'y a pas de quoi s'arrêter. On a toujours de quoi avancer avec le Seigneur. Et on a terminé donc avec la notion de séparation d'avec les païens, d'avec les non-croyants. Il y a un ensemble de choses à ne pas négliger, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu surtout en fait le côté orienté de qu'est-ce qui m'importe à moi en fait, qu'est-ce que je prends comme décision, qu'est-ce que je fais, comment je fais les choses, en sachant que tout ça, c'est forcément complémentaire de qu'est-ce que le Seigneur fait dans ma vie. Parce que là, on est orienté sur nous, s'il n'y a pas le Seigneur, ça ne sert à rien tout ça. Et s'il n'y a pas le Seigneur, ça ne se construira pas, quoi qu'il arrive. Ou ça construira quelque chose qui ne lui plaît pas. Et il faut vraiment toujours se garder lui en objectif. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'unir à quelqu'un d'autre, parce qu'on n'aura pas la même vision que lui. Et Néhémie, on le voit vraiment bien dans le livre. Il est tout le temps, voilà, la construction, j'ai du travail à faire, j'ai ceci. Seigneur, tu vois ça, mais moi, je fais ça. Il a été droit, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et faire tout ça sans Dieu, ça n'a pas de sens. Donc il faut vraiment juste chercher lui d'abord. C'est ce qu'on lit dans le Nouveau Testament. Chercher d'abord sa parole, sa présence, chercher lui. Et après, ce sera cohérent, il nous aidera à remettre toutes les choses en route. Je vais prier. Seigneur, je te remercie par ta parole. Merci pour ces livres qui, même s'ils sont... Ils sont fortement historiques, Seigneur. Ils nous apprennent beaucoup de choses sur ton peuple et on a des parallèles avec notre vie. Seigneur, on te prie de nous aider. On n'est des fois pas devant une maison totalement détruite. Des fois, il y a juste une portion qui est à refaire. Mais Seigneur, on a tous des choses à revoir dans notre vie, à faire avancer avec toi. Et Seigneur, on te prie de nous aider à faire les choses correctement. On te prie de nous aider à nous garder vraiment saints pour toi, mis à part. Seigneur, à ne pas nous mélanger avec l'ennemi, à ne pas nous laisser intimider non plus. Il peut faire des tas de choses pour nous faire peur. Mais Seigneur, tu es avec nous et on n'a pas besoin d'avoir peur. Seigneur, merci pour la construction que tu veux faire pour nos vies. Tu veux en faire un temple. Seigneur, faire quelque chose qui te fasse plaisir et qui nous fera plaisir automatiquement aussi. Merci Seigneur, amen.